Trafic d'art, le retour. Une émission d'art revisitée, déjantée et néanmoins sérieuse. Pas l'art, l'émission bien sûr. Une émission qui relook, qui frise et qui défrise. Une émission commode et transversale, spécialement équipée pour la crise. Trafic d'art, le retour. Une émission sans gêne, qui pique et qui pète et qui rote sous les sunlight. Une émission vraiment people, où même les cons et les connes sont les bienvenus. Trafic d'art, le retour, ton émission star pré-légendaire enfin dans tes oreilles. Ta petite heure, détox, intox, flitox, viandox qui fleure bon le nombrilisme primaire et où les narcisses éclosent comme des fleurs éclosent bien sûr. Trafic d'art, le retour du côté obscur de l'art. Trafic d'art. Le retour, ton émission In the Move for Love et Boule de Gomme, ton émission qui coiffe et qui décoiffe et qui dépote et qui pète et qui rote. Mais ça, je l'ai déjà dit. Mais c'est tellement bon. Trafic d'art, le retour. Ton magazine artistique est néanmoins compréhensible. Si, si c'est possible. Ton émission, tendance. Ton émission haletante et apéritive qui nous veut collectivement du bien, amis auditeurs et Tris. Bonsoir, on ne va pas retourner le couteau dans la plaie, tout le monde le sait, c'est la rentrée. Fini les châteaux de sable en Espagne et le pastis barbecuité, et bonjour le stress et la morosité. Enfin, c'est bien ce dont on veut nous persuader pour peu que, comme moi, vous soyez médiavore et que vous vous enfiliez à la suite et en apnée, s'il vous plaît, les joyeusetés d'Arte suivies des flashs de BFM TV. Eh oui, la météo mondiale n'est pas bonne. C'est une évidence. Mer forte a agité et grand froid sur le front de l'Est, tandis qu'au Sud, ça barde et ça chauffe toujours autant. Et à l'Ouest, me direz-vous À l'Ouest, eh ben, comme d'habitude, rien de nouveau, si ce n'est un été pourri. Voilà, donc la solution, eh bien, débrancher la télé, c'est facile, il suffit de tirer sur la prise, et écouter la radio. Et plus particulièrement RGB, tant qu'à faire, où nous bénéficions, je dois le dire, d'un microclimat tout à fait exceptionnel pour la saison. Peut-être cette douceur incomparable est-elle liée en vrac à nos choix de programmation, à la qualité de nos animateurs ou à la jovialité légendaire de notre directeur, allez savoir. Quoi qu'il en soit, pour ma part et pour apporter ma modeste contribution à la bonne humeur persistante qui règne sans partage dans nos locaux, j'ai choisi d'inviter ce soir un artiste sympa, enfin je dis sympa mais j'espère, un peintre de renom, aussi photographe, un acrobate, un nomade également, grand voyageur par le corps et l'esprit, c'est Tony Soulier. Bonsoir Tony Soulier.
Bonsoir.
Bonsoir et puis merci d'avoir accepté mon invitation. Vous venez de Paris, c'est ça ?
De Paris.
Bon, c'est pas très loin, mais enfin, quand même, il faut se déplacer. On s'est rencontrés, pour situer un petit peu les choses, on s'est rencontrés à Auvers-sur-Oise. C'était au mois de mai dernier, lors de votre vernissage, d'une exposition qui était, alors vous me dites si je me trompe, consacrée donc à un hommage à Vincent Van Gogh, c'est ça ?
Tout à fait, oui. Hein? C'était dans le cadre du festival d'Auvers-sur-Oise de musique. Ouais. Et voilà, donc en fait, le thème, c'était, je crois, c'était un anniversaire de Van Gogh, mais je ne sais plus lequel, 50 ans, 100 ans, 200 ans, je ne sais plus. Ouais. Donc en fait, j'ai travaillé autour de l'aura de Van Gogh, voilà.
D'accord. Donc c'est une commande.
C'est pas tout à fait une commande, c'est un clin d'œil, parce qu'il faut trouver à chaque fois une thématique. Alors le festival a trouvé cette thématique.
Qu'est-ce que vous avez de commun, vous, avec
Van Gogh ?
Van Gogh, ouais.
On est peintre.
Expressionnisme.
C'est la peinture.
Parce qu'on dit que votre travail, c'est d'expressionnisme abstrait, c'est ça ?
Non, je crois pas. Non, je pense que. En fait, j'ai pas grand-chose de commun avec Van Gogh, mais okay. Je veux dire, j'ai... Ouais. C'est ça qui m'a intéressé d'ailleurs, c'est retrouver peut-être
des
filiations, essayer de justement de m'approcher de lui, de l'apprivoiser, quoi. Ouais, voilà.
J'imagine que vous aimez son travail.
Oui, bien sûr. Ouais, c'est cool. Quelqu'un qui m'a qui m'a touché, enfin, qui me touche.
On a du mal quand même à situer hein, ce Van Gogh en question. On a tout entendu sur lui, tout et son contraire, bien évidemment. Récemment, il était impressionniste, maintenant il est expressionniste, demain il sera encore autre chose, peu importe. Oui, vous, par contre, vous faisiez partie de la nouvelle abstraction dans les années 70-80, c'est comme ça qu'on...
Oui, c'est comme ça qu'on met un peu les artistes dans des cases, je veux dire, on essaie de les limiter un peu, mais en fait, je crois qu'un artiste, il traverse des écritures, et je crois que c'est difficile de dire si je suis impressionniste, abstrait, figuratif. Je suis un artiste concret.
C'est réducteur un peu hein, de vouloir effectivement mettre... Non, réducteur, de mettre les artistes dans des cases.
Oui, tout à fait. Non, c'est pour ça que c'est difficile de... Même l'abstraction, pour moi, elle part de quelque chose de concret, on va dire, du vécu, du... Ouais. Voilà, je crois qu'on se nourrit de ce qui est vécu, du dialogue avec l'autre. Et je crois que Van Gogh avait aussi ce souci, quoi, dire de travailler. Quoi,
alors, se nourrir justement du vécu... Pour vous, c'est particulièrement vrai quand on connaît un peu votre travail. Alors, j'ai lu que vous définissiez comme un photopeintre. Donc, c'est un néologisme qui signifie, bien sûr, que vous réunissez à la fois la photographie et la peinture. Comment ça se passe? Et pourquoi vous avez choisi de travailler comme ça?
En fait, quand j'ai commencé, je travaillais beaucoup sur les installations. Je faisais beaucoup d'installations lors de mes voyages, beaucoup de déplacements que je réalisais sur les volcans, les déserts. Et puis, l'atelier me manquait aussi, quelque part. Donc, il y avait toujours cette dualité dont je recherchais quand même toujours à mémoriser, à essayer de justement garder une trace, parce que les installations étaient un travail éphémère. Donc, la photo est arrivée petit à petit, un peu comme une mémoire, quoi.
Votre formation, c'est quoi votre formation? Vous avez fait les beaux-arts?
Les arts appliqués. Les arts appliqués, ouais. Voilà, ça a été un peu un parcours un peu. J'ai travaillé un peu pour le théâtre, j'ai travaillé aussi pour l'écriture. Enfin bon, il y a eu un peu un parcours en zigzag. Mais enfin, c'est vrai que c'est les arts plastiques aussi qui sont à la base de mon travail. Voilà.
J'ai l'impression que vous êtes très, très éclectique et vous aimez bien effectivement naviguer. Hein, d'un endroit à l'autre, d'un médium à l'autre, essayer pas mal de choses.
Oui, parce qu'en fait, je vais reparler peut-être de cette école que j'ai fait quelque temps, qui s'appelle les arts appliqués, et c'est en fait une école qui travaille beaucoup avec des techniques différentes. Contrairement aux beaux-arts, qui est quand même un travail où on axe plus sur le côté artistique, là c'était un travail plus sur des techniques comme j'ai appris la fresque, la mosaïque, le vitrail. Mm-hmm. Donc en fait des matériaux qui sont quand même qui pour moi peuvent rentrer dans la peinture. La peinture, c'est pas un tube, c'est pas je crois qu'on peut travailler aussi bien avec tous les matériaux aujourd'hui. En plus, on a d'autres médiums pour les voilà. Ouais, ouais. Donc en fait, voilà, bon, c'est ça. Je crois que le voyage, c'est ça aussi. Enfin, les déplacements que j'ai fait sur les volcans, c'était aussi parce qu'il y avait un côté minéral. Il y avait le feu.
On va reparler des volcans voilà, justement voilà. Parce qu'il y a aussi les fameuses installations. Oui, oui. Alors bon, évidemment, c'est la convergence de votre travail, le résultat. La convergence d'énormément de choses. Pour que les auditeurs comprennent bien, parce que bien évidemment on est en radio, donc c'est moins facile de se faire une idée visuelle de votre travail. Ça ressemble à quoi ce que vous faites actuellement? Quand on parle de photopeinture, ce sont
le support c'est de la photo. Ouais, parce qu'avant bon, c'était plus de la peinture sur toile, sur des châssis et tout. Ouais. Là c'est un travail qui est réalisé sur des photos argentiques toujours. Je suis pas passé encore au numérique. Donc j'aime bien le papier de l'argentique. Ce sont des grands formats qui peuvent faire 2 mètres, 4 mètres et tout. Voilà. Donc c'est toujours des photos en noir et blanc.
Vous faites les tirages vous-même ?
Non, je ne le fais plus. Je les ai réalisés, mais en fait, ça reste très technique. Hein, voilà. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'était ce support qui est très glacé, qui veut dire on peut travailler dessus, on peut travailler la transparence, on peut travailler la matière, on peut... Et puis voilà. Puis il y a la mémoire aussi de cette empreinte de ces déplacements. Qui est là, qui va s'effacer, qui va se recouvrir. En fait, c'est comme un recouvrement en permanence. Et, Voilà, en fait, c'est pour ça que l'image m'intéresse moins. C'est pas une vision. Je veux dire aussi, quand j'ai travaillé les villes, c'est pas la ville qui m'intéresse. Enfin, c'est pas comment dire l'image de la ville, parce que c'est des images cartes postales que je fais presque à la limite. Mais ce qui m'intéressait, c'était justement.
Je trouve que vous êtes un peu dur avec vous-même. Hein. On est très loin de la carte postale, mais bon, c'est pas anecdotique.
Non. Après, ça devient plus une carte postale, mais à la base, à la limite, ce sont des villes, ce sont des lieux iconiques.
Je veux dire, bien sûr. Oui, qu'on peut reconnaître d'ailleurs.
On reconnaît New York. Hong Kong, Paris, enfin je sais pas, bon, toutes les villes que j'ai fait, ou même d'autres lieux, hein, ça veut dire, ça peut être des choses beaucoup plus abstraites et tout, mais il y a ce recouvrement qui m'intéresse aussi.
Recouvrement, mais aussi découvrement, si, enfin, je sais pas, j'utilise un néologisme, mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre, effectivement, de la trace, j'ai l'impression, dans votre travail, à la fois de l'enfouissement et en même temps de la réapparition,
tout à fait,
vous voyez, c'est une sorte d'alternance,
il y a une résurgence, lumière, bien sûr, tout à fait. Mais alors, ça rejoint un peu, bon, on parlera des Indiens tout à l'heure,
on va en parler.
Parce qu'on parlait, sur les hommes médecine qui travaillent justement avec le sable, qui vont chercher toutes les terres et les ocres dans les points cardinaux différents pour les rassembler sur le sol. Et en fait, le sol va absorber justement la maladie, le mal et tout, et ça s'efface. Et tout, voilà. Donc en fait, il y a cette absorption, je crois, des choses qui... De l'effacement, de l'ordre de l'effacement. Et ça, c'est important aussi, l'effacement.
En préparant ces missions, Tony Soulier, j'ai eu comme ça des choses qui me sont venues à l'esprit, et notamment une phrase de Sacha Guitry qui disait « Ce n'est pas que je sois un touche-à-tout, c'est que tout me touche ». Ça vous parle, ça ?
Ah oui, c'est
j'ai l'impression
c'est que Sacha Guitry, en plus,
oui, Sacha Guitry,
un genre d'esprit merveilleux.
Quoi. Vous êtes un peu comme ça, vous n'êtes pas un touche-à-tout, mais vous êtes touché, vous êtes concerné par ce qui se passe, par le monde.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, ouais. C'est vrai, je suis touché par le présent, en fait, par le vécu, je veux dire, par les choses qui sont là, et je crois qu'il faut les saisir, faut les déplacer, faut les rendre malléables, et puis en faire quelque chose d'autre, je veux dire, il faut les transformer, je crois que la transformation, elle est là. Thank you.
territoire GB 99.2, c'est Trafic d'art et ce soir nous sommes en compagnie de l'artiste Tony Soulier. Tony Soulier, on dit souvent qu'une œuvre est toujours plus ou moins autobiographique. Mais alors chez vous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de doute possible. Hein. Effectivement, votre œuvre est vraiment autobiographique. Alors, elle se nourrit principalement de vos voyages. Ce sont des voyages qui sont dans des endroits qui vont dans des endroits aussi différents qu'une grande mégalopole comme New York, on en parlait tout à l'heure, ou les pentes d'un volcan, justement, ou même des déserts, à la recherche de ce que vous avez appelé les états limites du monde. C'est quoi les états limites du monde ? Indépendamment de ces lieux, bien évidemment.
Oui, bien sûr. Ce sont des no man's land un peu. Dire, c'est essayer de trouver justement ces points extrêmes où l'homme, l'homme peut déplacer des espaces ou les concentrer. Je veux dire, les villes, justement, ce sont des extrêmes. Si on parlait des déserts. Ou des mégapoles, je veux dire, une ville comme Lagos qui a aujourd'hui 30 millions d'habitants, et puis à côté, je veux dire, c'est ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est cette compression et à un moment donné, cette dilatation justement du monde. C'est-à-dire que le monde, il est vivant et justement, il y a des déplacements, il y a des migrations et je crois que l'artiste, c'est ça aussi, c'est rechercher justement toutes ces limites, ces points de fragilité en fait, ces failles, voilà.
Il y a quelque chose un peu... Est-ce que vous me dites si je dis une connerie, est-ce que vous recherchez un peu l'excès, l'excessif ? Est-ce que vous... Parce que le désert, c'est quand même pas rien. Le volcan, c'est très fort.
Oui, mais ce n'est pas l'excessif. Pour moi, ce sont les extrêmes. Quoi, veux dire, c'est pas...
Les extrêmes. D'accord.
Oui, ce sont les extrêmes, je crois. Et je crois que l'homme, il a comment dire... Dans sa vie, je veux dire, il a aussi à travers le temps et l'espace qui lui incombe, il a aussi quand même ce parcours quand même. Donc là, c'est peut-être l'artiste, il a besoin de redessiner une carte, sa propre carte, de redessiner son monde à lui. Quoi, je veux dire, c'est ça, c'est une façon d'intérioriser aussi pour pouvoir le digérer, le ressortir, le retranscrire sous forme d'écriture différente. Quoi.
Parce que rechercher les extrêmes dans la société qui est la nôtre aujourd'hui, c'est pas très politiquement correct, bien évidemment, puisqu'on a tendance plutôt à être dans quelque chose, une sorte de consensus, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, par contre, effectivement, vous considérez que c'est le boulot de l'artiste.
Oui, bien sûr. C'est pour ça que l'artiste, il n'a pas beaucoup de place aujourd'hui. Je veux dire,
trouvez.
Le poète, bien sûr, oui, tout à fait. Dans un monde de technocrates, quoi, dire de gens qui veulent tout gérer, réglementer, mettre des frontières, policer et tout. Et je crois que l'artiste, c'est celui qui va ouvrir, justement, qui va essayer de donner un champ beaucoup plus large. Voilà.
Tout policer. Policer, il y a aussi lisser, bien évidemment, hein, c'est-à-dire aplanir, on est d'accord,
niveler, quelque chose.
Votre œuvre n'est pas du tout plane, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que vous travaillez aussi avec le carborandum, c'est ça ? C'est quoi le carborandum ?
Le carborandum, c'est de la silice. En fait, moi, j'ai eu des ateliers à la Bastille, à Paris, qui étaient proches, justement, de pas mal d'artisans et tout, et il y avait un cimetière qui s'appelle le Père Lachaise, enfin, qui est toujours, d'ailleurs. Ils n'ont pas déménagé. Et alors, ils utilisent en fait la silice pour, comme abrasif, pour les outils, pour les marbriers et tout.
Ouais. D'accord.
Donc voilà, j'utilise en fait les matériaux des artisans souvent aussi, les vernis au tampon que les artisans du meuble aussi travaillaient. Donc j'ai travaillé pas mal de matériaux comme ça, j'ai déplacé un peu le...
Vous êtes attaché au savoir-faire.
En antenne, on
parlait justement de l'importance pour vous du geste des artisans. C'est important, ça, de savoir...
Oui, c'est la main, c'est l'outil. C'est l'outil. Et je crois que c'est... Je vais faire une petite aparté, là. Je veux dire, je pense à Salgado, photographe, qui avait fait un livre au tout début qui était intéressant, qui s'appelait « La main de l'homme ». Il a photographié comme ça les Grimes Paros, il a photographié pas mal de de paysans, d'ouvriers, de mineurs et tout à travers la planète. Et ça, j'ai été touché par son travail aussi.
Qui a eu une très très belle exposition d'ailleurs l'an dernier à la Maison de la Photographie, Maison D'accord. européenne de la photographie, Salgado, sur plusieurs étages. Ouais. Oui.
Et je crois que c'est vrai que c'est un photographe qui est quand même très, qui est ouvert sur le monde et qui a un vrai regard aussi, j'allais dire humaniste aussi.
Donc on y est, vous préférez Doisneau ou Cartier-Bresson en tant que photographe? Il n'y a pas de piège, hein?
Non, il enfin, n'y a pas de piège. Non, je ne vois pas de piège, mais non, je peux pas.
Ouais,
je crois que chacun a son écriture et les deux m'intéressent. Non, j'aime beaucoup les photographes. Je trouve que, je veux dire, parce que ce qui m'intéresse, c'est le dialogue aussi. Je veux dire, c'est vrai que la photo m'intéresse, mais bon, la musique m'intéresse aussi parce que je pense que dans la peinture, il y a une musicalité, il y a une coloration. Et j'aime beaucoup les musiciens de jazz. J'aime beaucoup j'aime l'écriture, le théâtre. Enfin, pour moi, la danse aussi, c'est
vous avez fait de la danse d'ailleurs. Vous étiez acrobate, non? Vous avez dansé?
Oui, j'ai fait l'acrobatie à un moment donné.
Vous savez qu'il y a plein de bêtises qui circulent sur Internet. Sais, il faut corriger Wikipédia tout de suite parce que franchement, vous êtes danseur, acrobate,
c'est pipeau tout ça.
Ah, c'est pipeau.
C'est pipeau. Non, enfin, j'ai fait de l'acrobatie, mais j'ai pas fait de la danse. Je suis pas danseur. J'ai travaillé pour le théâtre. J'ai monté des pièces et tout. J'ai joué. Voilà, c'est vieux, c'est très très ancien. C'est une autre vie, voilà.
Une autre vie.
Une autre vie.
Ne demande jamais ton chemin à celui qui le connaît, tu risquerais de ne pas t'égarer. Ça, c'est une phrase de Rabbi Naaman de Bratslav. Je ne sais pas qui c'est, Rabbi Naaman de Bratslav. Et c'est un exergue du bouquin de Gérard Garoust, L'Intranquille.
D'accord.
Vous voyez, et je trouvais que ça pouvait parler de vous éventuellement aussi, cette histoire-là, de ne pas trop demander son chemin et de suivre son propre chemin.
Oui, pour... parce qu'on a envie de se perdre aussi, bien sûr.
Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on peut se trouver.
Oui, bien sûr. On a envie de prendre des chemins de traverse, on n'a pas envie de marcher sur les pas des autres. On a envie de justement... De croiser, ce sont des croisements, c'est une trame qu'on va essayer de construire, justement. C'est la rencontre de l'autre, donc en fait, on ne peut pas être sur le même chemin. Quoi.
D'accord. Alors, justement, puisqu'on parle de voyage, fatalement, on va être amené à parler... j'ai envie qu'on parle déjà un petit peu des volcans, parce que votre travail sur les volcans, c'est quand même pas rien, même si c'est un travail plus ancien. Mais j'aimerais qu'on revienne, ne serait-ce que par parenthèse, sur ce travail-là. Et puis qu'on puisse évoquer aussi vos voyages, et notamment dans les terres indiennes, les territoires indiens. Les volcans, c'était dans les années 90, c'est ça? Vous avez fait tout un travail de land art.
Tout à fait.
Sur les volcans, et pas mal de volcans d'ailleurs.
Oui, pas mal. Surtout les îles éoliennes, le Vésuve. Et à cette époque aussi, j'ai eu la Villa Médicis sur les murs, donc j'avais choisi pendant un an de travailler sur les volcans, et notamment sur le Stromboli, qui est en activité en ce moment, justement, il y a des coulées de lave et tout, et cette approche justement des volcans, c'était une approche, on parlait de relief tout à l'heure, c'est vrai que j'étais plus un citadin, je veux dire. Et puis j'ai eu un besoin aussi de montrer toute une démarche par rapport au feu aussi, et l'installation que j'ai réalisées sur le volcan, c'était une approche avec le temps, c'est-à-dire qu'en fait le volcan avait ses éruptions toutes les 7-8 minutes à peu près, donc j'ai fait un calcul et j'ai fait des installations au plus proche de la bouche du volcan, et donc j'ai travaillé en étant le plus rapide.
C'était le challenge qui vous excitait là,
ou oui,
c'était ça. Je peux le faire quoi. Je vais me confronter à vos volcans là, et moi tout petit là, je vais arriver à faire mon truc.
Voilà. Et qui s'effaçait au bout de 2-3 minutes avec la lave, avec les bombes volcaniques et tout.
Oui, comme d'autres ont fait la même chose d'ailleurs sur des plages, laissant l'océan effectivement détruire les œuvres éphémères. Voilà. Un artiste argentin, je crois, qui a fait ça.
Tout à l'heure, on parlait de l'effacement, et c'est ouais. ça aussi, c'est-à-dire c'est toujours cet éternel recommencement qu'on
retrouve. C'est un signe d'humilité chez vous, ou c'est autre chose, cette histoire d'effacement de...
Non, je sais pas, je pense que...
Parce que l'artiste, hein, en règle générale, on dit que les artistes ont un ego assez important.
Ouais, je sais pas. Non. On peut pas généraliser, je pense pas.
Ouais, on peut pas généraliser. Vous, c'est pas votre cas.
Non. Moi, j'aime bien quand l'œuvre, elle s'efface aussi. Je veux dire, elle s'inscrit. Il y a une mémoire, il y a une trace, voilà. C'est éphémère. Mais je crois que l'œuvre... pour revenir à l'histoire de Van Gogh, là, j'ai lu il n'y a pas très très longtemps sur l'histoire de Van Gogh, c'est que quand il est décédé, son frère, en fait, bon, l'a aidé financièrement, mais... En fait, il n'aimait pas l'œuvre de son frère. Donc, en fait, son œuvre était condamnée à être détruite dans une benne et tout. Et c'est quand le frère est décédé un an après que la femme de son frère a aimé l'œuvre, a protégé l'œuvre de Van Gogh et tout. Sinon, toute une partie de son œuvre partait à la décharge et tout. Ça veut dire qu'en fait, ça peut être sauvé par une personne, une œuvre. C'est là où il y a la fragilité de l'œuvre. On a eu plein d'exemples d'artistes qui ont disparu. Et puis l'œuvre.
Même aussi, certains qui sont réapparus d'ailleurs.
Voilà, et qui sont réapparus deux siècles après. Tout à fait. Ouais. Donc je crois que le présent est très important. Je crois, je veux dire, c'est ça, c'est l'instant qui m'intéresse et cette urgence. De dire, voilà, on se brûle et on peut être brûlé aussi. Je veux dire, on peut brûler...
Vous êtes d'un signe de feu, au niveau astrologique, votre signe, c'est un signe de feu
ouais.
Ah. C'est quel signe?
Je suis Sagittaire.
Vous êtes Sagittaire.
Ouais.
D'accord.
Mais, non, c'est vrai que il y a une morsure, je pense à l'autre amant qui disait je ne laisserai pas cette blessure se refermer et tout. Et je crois qu'il y a ça aussi, je veux dire, dans la création, il faut entretenir justement cette peut-être, j'allais dire une plaie ouverte, mais quelque chose qui... Voilà,
qui entretenir le feu. Alors, on va parler des Indiens, bien évidemment. Là, pour introduire un petit peu ce qu'on va pouvoir dire autour de ça, j'avais envie de vous faire écouter John Trudell. Vous connaissez John Trudell ?
Tout à fait.
Bon. C'est un, alors lui, c'est un Sioux, hein, en fait. Vous êtes plutôt familier, je crois, des Navajos et des Hopis.
Surtout des Hopis et des Audis. Voilà.
C'est ça. Donc lui, John Trudell et Sioux. Et ce qu'on va écouter, ça s'appelle « Crazy Horse ».
Sell the earth, the people walk upon. We are the land. How do we sell our mother? How do we sell the stars? How do we sell the air? Crazy horse, we hear what you say. Too many people standing their ground, standing the wrong ground. Predator's face. Be possessed a race, possession, a war that doesn't end. Children of God, feed on children of earth. Days people don't care for people, these days are the hardest. material fields, material harvest, decoration on chain that binds, mirrors gold, the people lose their minds. Crazy horse, we hear what you say. One earth, one mother, one does not sell the earth, the people walk upon it.
Vous êtes sur RGB 99.2, c'est Trafic d'art, et donc nous sommes toujours en agréable compagnie avec Tony Soulier, en voyage, parce que c'est un voyage, aussi un voyage à travers son œuvre, un voyage à travers l'art, plus généralement, et puis je regardais vos travaux, Tony Soulier, et j'essayais de ressentir un peu des choses par rapport à ça, et je me disais, tiens, dans ce travail-là, il y a comme une tension. Alors, voilà ce que j'ai ressenti, hein, c'est très personnel, une tension, une sorte d'instabilité, une impermanence, au-delà même de la trace picturale qui est très forte, mais une sorte d'impermanence, comme une impossibilité à se fixer, une indécision au-delà de la précision. Vous voyez ? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas c'est parce que c'est quelque chose de paradoxal. Vous voyez, je sens dans votre œuvre une sorte de réunification, de réunion des contraires presque. Un peu d'ailleurs comme cette histoire de la photographie et de la peinture. Hein. La photographie et la peinture, c'est à la fois, ils sont un peu en guerre, un peu opposés, puis très complémentaires. Je sens cette recherche de complémentarité et d'unité dans votre travail.
C'est une sorte de balancement, en fait. Ouais. C'est ça. Dire, en fait, il y a comme un mouvement, comme une spirale qui nous ramène au centre et qui nous expulse vers l'extérieur en permanence. Donc, en fait, c'est trouver sa place, quoi. Trouver sa place à chaque instant. Dans cette spirale, quoi. Et c'est vrai que c'est un tourbillon, c'est une histoire de tourbillon. Moi, j'avais un père qui était moniteur de natation et plongeur, et en fait, il nous amenait dans les tourbillons pour essayer de se sortir des tourbillons avec mon frère. Donc, il y a cette image qui m'est restée quand même de mon enfance. C'est...
Là, il y avait une mise en danger quand même, hein, quelque
toujours,
part.
Hein. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais de toute façon, il nous disait, il faut pas avoir peur de la peur, justement. C'est de sortir de ce tourbillon, c'est de la peur, et c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, qu'il faut dominer. Et je crois que à travers les installations que j'ai réalisées, ou la peinture aussi, dire il y a aussi une peur, il y a des peurs, et il faut s'en sortir justement en allant dans les extrêmes pour pouvoir revenir. Et en fait, c'est ça, on est toujours happé par cette spirale, et voilà, quoi. Bon, c'est le lot de tout le monde, je crois, par rapport à la vie, quoi, aussi. Hein,
je pense aussi. Ouais,
c'est ça, quoi.
Alors, du coup, vous allez chez les Indiens, enfin, en territoire indien, régulièrement. C'est quoi, pour vous ? C'est une sorte de havre ? C'est un retour aux sources ?
En fait, il y a eu tout un périple avant. C'est vrai que je suis pas arrivé. Ce qui m'intéressait avant, c'était travailler. J'ai beaucoup traversé des terres africaines, et c'est le chamanisme qui m'intéressait, c'est toute la spiritualité aussi, enfin le rapport qu'ils avaient avec la terre, avec le sacré, avec les choses qui sont enfouies, quoi. Et petit à petit, les éléments se sont déplacés. Je me suis intéressé aussi au peuple qui était en Océanie. Là, c'était les fleuves, c'était le rapport avec l'eau et tout. Et les Indiens, les terres indiennes, ce qui m'intéressait, en fait, je suis passé d'un élément à un autre, et en fait, c'est l'air, c'est tout ce qui est plus aérien. Et c'est vrai que les Indiens, c'est le déplacement, c'est la mobilité, et c'est le rapport aussi avec les plumes. Alors, c'est vrai que
avec les plumes. Vous avez un rapport avec les plumes.
Oui, on a le droit avec les plumes. Je ne suis pas un oiseau, mais
c'est les plumes.
Mais parce qu'en fait, les Les plumes, comme ce sont les ancêtres, en fait. Donc, ils les portent sur eux. Donc, ce sont les ancêtres. Ils vivent avec les ancêtres. Et je me suis intéressé aussi à l'Amazonie aussi. On dirait qu'ils coloraient. Par exemple, ils donnaient certaines nourritures à certains oiseaux qu'ils capturaient. Et avec la nourriture, ils changeaient la coloration des plumes. Donc, en fait, c'était une façon de peindre, en fait. Et en fait, ils faisaient toutes les coiffes et tout. Les chefs indiens, le jaune, ils arrivaient à faire des plumes jaunes simplement avec la nourriture.
Vos couleurs, c'est un petit peu, de façon récurrente.
Hein, ce sont des